Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 21 novembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le point de la semaine économique en Australie. On passe à l'actualité de ce 21 novembre. Au sommaire de ce bulletin, l'Ukraine a tiré une série de missiles de croisière britannique Storm Shadow sur la Russie, un jour seulement après avoir tiré des missiles de fabrication américaine. Une nouvelle législation sera introduite cette semaine, obligeant les employeurs à fixer des objectifs de parité pour les conseils d'administration, à réduire les écarts de rémunération et à proposer des horaires de travail flexibles. Et puis les jeunes demandent au gouvernement de baisser l'âge de pouvoir voter à 16 ans. L'Ukraine a tiré une série de missiles de croisière britannique Storm Shadow sur la Russie un jour seulement après avoir tiré des missiles de fabrication américaine. Les médias russes ont confirmé les frappes et affirment que des images sur Telegram montrent 14 explosions dans la région de Koursk, dont les forces ukrainiennes se sont emparées plus tôt cette année. Les frappes ont eu lieu peu de temps après que l'Ukraine a été autorisée par les États-Unis et le Royaume-Uni à utiliser les armes occidentales sur des cibles russes, ce qui, selon la Russie, signifie une escalade majeure du conflit. Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a déclaré que l'Ukraine avait besoin d'une capacité améliorée pour se défendre contre l'invasion de la Russie.
We are trying to repel the enemy from our territory, and we're trying not to allow them to maneuver into our territory and to create the buffer zone. So we're working daily. It's a daily work to us. And in general, we are building our capabilities to defend our nation and to create deterrence measures, not to allow them to come closer.
En Australie, une nouvelle législation sera introduite cette semaine obligeant les employeurs à fixer des objectifs de parité pour les conseils d'administration, à réduire les écarts de rémunération et à proposer des horaires de travail flexibles. Cette annonce intervient alors que l'Agence pour l'égalité des sexes au travail constate que l'écart salarial entre les hommes et les femmes en Australie est toujours supérieur à 20%. Et cet écart est encore plus important parmi les PDG à 25%. L'écart salarial entre les hommes et les femmes s'est réduit d'année en année, ce qui a été largement alimenté par la croissance des salaires des femmes, les moins bien payées de la population active. La ministre du Travail, Kate Thwaites, a déclaré que la nouvelle législation va contribuer à réduire encore davantage cet écart.
This is us being serious about making sure we are supporting Australian women, that we're closing the gender pay gap, and that we're doing the work that we know is good for our country as a whole.
La sénatrice des Verts, Larissa Waters, affirme que les Australiennes doivent avoir la garantie d'un accès sûr et abordable aux soins d'avortement, alors que son parti appelle le chef de l'opposition fédérale à retirer du Sénat un projet de loi anti-avortement. Le projet de loi des sénateurs est coparrainé par le député national du Queensland, Matt Canavan, et le député libéral sud-australien, Alex Antich, depuis 2 ans. La sénatrice Waters a annoncé qu'elle présenterait une motion le 26 novembre pour que le projet de loi sur les droits de l'homme soit rejeté. Cela intervient alors que Peter Dutton a appelé les députés de la coalition à éviter tout débat public sur l'avortement. Madame Waters affirme que si le chef de l'opposition veut éviter un débat sur la question, il devrait assurer aux Australiennes que leurs droits à l'avortement sont garantis.
So I understand that's a bit inconvenient for the Liberal Party to have this issue on the agenda. But I'm afraid if Mr. Dutton says he doesn't want this to be an issue, then he needs to ask his senators to remove a piece of legislation that is currently on the notice paper that is a thinly veiled attack on women's rights to decide what they want to do with their bodies.
Et pendant ce temps, le sénateur national du Parti national, Matt Canavan, affirme que le débat ne devrait pas être étouffé.
This is an attempt to censor and silence debate in this country. This attempt is simply to take a bill off the notice paper. This bill is not going to a vote at this time.
Les dirigeants de la compagnie Rio Tinto ont présenté leurs excuses au personnel après qu'une étude sur la culture du lieu de travail a révélé des cas de comportement et d'attitude inacceptables au sein de la société minière. Un peu plus de 10 000 employés ont participé à l'enquête qui a révélé que 7% d'entre eux avaient été victimes de harcèlement sexuel et de racisme au cours de l'année écoulée, soit le même nombre qu'en 2021. Les employés ont également indiqué qu'il y avait eu une augmentation des comportements d'intimidation, une augmentation de 8 points de pourcentage, les femmes étant particulièrement touchées. Une majorité de femmes ont également signalé des tentatives d'agression sexuelle ou des demandes de relations sexuelles ou d'actes sexuels sur le lieu de travail. Kelly Parker, PDG de Rio Tinto, affirme que l'entreprise a déjà mis en œuvre des stratégies pour faire face aux changements culturels et qu'elle se dirige dans la bonne direction.
There's many, many conversations that are occurring around respect, and people are starting to talk about the change, and we know that they're talking about the change because we're seeing backlash.
Une immense ferme solaire pouvant alimenter 51 000 foyers sera financée par le gouvernement du Victoria. La première du Victoria, Jacinta Allan, a déclaré que le gouvernement dépenser soit 370 millions de dollars pour construire ce qui deviendrait le premier projet de production d'énergie détenu à 100% par le gouvernement. Madame Allan a déclaré que le site serait capable de produire environ 242 000 mégawatt-heure d'énergie renouvelable par an.
This is a big moment for the generation of renewable energy in our state, but a big moment in terms of putting power back into the hands of the Victorian community.
Les jeunes demandent au gouvernement de baisser l'âge de pouvoir voter à 16 ans. Le groupe de défense Make It 16 s'est réuni hier 20 novembre pour demander au gouvernement de cesser d'ignorer les jeunes Australiens. Le groupe affirme que les jeunes de 16 et 17 ans sont engagés politiquement et veulent avoir leur mot à dire dans les décisions gouvernementales qui affectent leur vie et leur avenir. La sénatrice indépendante Monique Ryan a déclaré qu'elle soutenait pleinement l'âge du vote à 16 ans.
As a former neurologist, I can tell you that young people have the mental and emotional maturity to be able to make a decision about who should govern them. And they should be given that opportunity, given the fact that in this place we make decisions every day which affect their futures.
Le vice-premier ministre Richard Marles a réitéré les appels du Parti travailliste à ramener la migration au niveau d'avant la pandémie, alors que la coalition et les Verts cherchent à empêcher la politique du gouvernement de plafonnement des étudiants. La législation du gouvernement fédéral limiterait le nombre d'étudiants étrangers à 270 000 personnes à partir de 2025, alors que plus de 445 000 personnes ont commencé leurs études cette année. Bien que la coalition soit favorable à la réduction des arrivées d'étudiants internationaux, le chef de l'opposition fédérale, Peter Dutton, a lancé un appel de dernière minute au parti pour qu'il bloque la proposition du parti travailliste et propose son propre plan de plafonnement des étudiants. Entre-temps, les Verts ont toujours exprimé leur opposition au plan qu'ils décrivent comme faisant des étudiants internationaux les boucs émissaires de la crise du logement du pays. Richard Miles affirme que les deux parties ont rejeté leur idéologie pour coopérer afin d'empêcher l'adoption du projet de loi.
The coalition talk the talk in a big way. They do not walk the walk. And what every Australian needs to understand is that this week, what we have seen is that the coalition, the Liberals and the Greens are now cooperating on immigration policy. I mean, that is astonishing.
Des familles aborigènes et insulaires du détroit de Torres ont intenté une action en justice contre les gouvernements d'Australie occidentale et de Nouvelle-Galles du Sud pour des enlèvements d'enfants. Les familles affirment avoir subi une discrimination raciale ayant entraîné l'enlèvement de leurs enfants. L'avocate de Shine Lawyers, Caitlin Wilson, dirige le recours collectif au nom des familles. Madame Wilson affirme que les familles allèguent qu'il y a eu une discrimination raciale généralisée dans un certain nombre de gouvernements d'État, entraînant l'enlèvement d'enfants autochtones de leurs familles et une perte de liens culturel. La directrice du National Suicide Prevention and Trauma Recovery Project, Megan Krakwa, a soutenu un certain nombre de familles qui ont subi l'enlèvement de leurs enfants. Elle a salué le recours collectif, affirmant qu'il y avait un besoin urgent de réforme du système de protection de l'enfance. Le service 13 YARN 13 92 76 est disponible dans tout le pays 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur n'importe quel téléphone. Le club de l'AFL Hawthorn a réglé son affaire devant la Cour fédérale avec d'anciens joueurs autochtones et leurs familles. Après une médiation cette semaine, les allégations de racisme contre le club de foot et son ancien entraîneur, son ancien assistant et l'ancien responsable de la protection sociale du club ont été rendues publiques pour la première fois en 2022. Les allégations comprenaient des allégations de discrimination illégale, notamment des séparations familiales et des pressions pour une interruption de grossesse. Le club a maintenant publié une déclaration annonçant le règlement et a présenté ses excuses aux joueurs et à leurs familles. Les joueurs concernés n'ont pas encore fait de commentaires publics sur le règlement. On passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, quelques averses, 24 degrés. Adélaïde, ensoleillé, 34 degrés. Melbourne, ensoleillé, 29 degrés. Hobart, nuageux, 22. Canberra, nuageux, 27. Sydney, nuageux, 25. Brisbane, quelques averses, 25 degrés. Darwin, quelques averses, 33 degrés. Et à Alice Springs, journée ensoleillée, maximale de 38 degrés. Voilà, fin du journal de ce 21 novembre.
Thank you.
Et on passe au journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le tennis. Rafael Nadal, le roi de Roland-Garros, a pris sa retraite après la défaite de l'Espagne face aux Pays-Bas en quart de finale de la Coupe Davis. Les précisions de Florence Valvé pour Radio France Internationale.
J'espère que l'on se souviendra de moi comme d'une bonne personne, d'un garçon qui a suivi ses rêves et qui a travaillé le plus dur possible pour être celui que je suis aujourd'hui. Après la défaite de l'Espagne, donc 2-1 face aux Pays-Bas, Rafael Nadal s'est exprimé hier soir, très ému forcément devant plus de 10 000 spectateurs venus le voir jouer une dernière fois, car il l'avait annoncé il y a quelques semaines, ses quarts de finale de Coupe Davis marqueraient la fin de sa carrière. On s'y attendait donc, mais une fois le moment venu, forcément c'est toujours fort en émotion. Rafael Nadal a évidemment marqué l'histoire de son sport avec 22 grands chelems, parmi lesquels 14 Roland-Garros remportés entre 2005 et 2022, 14 fois sacré porte d'Auteuil. Même son grand ami et collègue Richard Gasquet n'en revient pas au micro d'Éric Mamrut.
Même une science-fiction, tu n'en aurais pas 14 fois. Donc là, ça s'est réalisé. Donc tu vois, quand t'as fait ça, quand t'as dit ça, t'as tout dit quoi. Hein, 14 fois, un mec a gagné, qui a joué déjà le tournoi, c'est pas facile. Il était tout simplement, voilà, c'était incroyable quoi, c'était fou. L'intensité, le jeu, le physique, comment il a fait, mais même moi, j'ai du mal à te répondre, quoi. Voilà, tout simplement, quoi, comment il a fait. Parfois, il y a des trucs irrationnels, quoi. Voilà, donc je peux pas. Comment il a fait, on le voit et son niveau de jeu, mais à ce point-là, je peux pas te dire quoi, même moi je peux pas te dire.
Et au total, Rafael Nadal a remporté 92 titres, soit 2 de moins que Djokovic, mais 2 de plus que Roger Federer. L'Espagnol a terminé à 5 reprises une saison à la place de numéro 1 mondial.
Aligné avec l'équipe d'Espagne en ce quart de finale, Rafa rêvait de quitter les cours sur un dernier trophée. Nadal dit qu'il est en paix avec sa décision de prendre sa retraite. On l'écoute.
So at the end is about a feeling that I have been thinking for a long time, and for me today, I mean, don't make sense or to keep going knowing that I don't have the real chance to be competitive the way that I like to be competitive, because my body is not able to give me the possibility to do that very often.
Et puis Roger Federer a rendu hommage à son rival. Il a déclaré que l'Espagnol l'avait mis au défi comme aucun autre joueur et qu'il avait rendu le monde du tennis fier au cours d'une carrière qui a duré plus de 20 ans. Et puis toujours en Espagne, c'est l'Italie qui a remporté la Billie Jean Cup pour la 5e fois de son histoire. On passe au foot avec la Ligue des championnes féminines. Les Lyonnaises ont battu les Italiennes de l'AS Rome 4-2 dans le groupe A et les Françaises se qualifient pour les quarts de finale. Le rachat du Paris FC par Antoine Arnaud et il veut miser sur la formation pour les sélections masculines et féminines. Les précisions de Florence Valvé pour RFI.
Oui, ça y est, c'est désormais officiel. Le Paris FC va être racheté par la famille Arnaud, propriétaire du groupe de luxe LVMH, dont le PDG Bernard Arnaud est l'homme le plus riche de France. Son fils, Antoine Arnaud, était présent ce mercredi en conférence de presse aux côtés du président du club, Pierre Ferracci, qui a annoncé que l'acquisition du PFC serait finalisée dans les prochains jours. Le futur nouvel homme fort du Paris FC affiche de grandes ambitions. Antoine Arnaud a détaillé ses objectifs pour le club qui évolue actuellement en Ligue 2.
D'apporter du bonheur au public parisien, au public francilien, de créer un club à taille humaine. Moi, le caractère familial de ce club me plaît beaucoup. Je ne dis pas que tout restera exactement comme c'est aujourd'hui. Bien évidemment, on va, comme je le disais, grandir et s'améliorer. Mais cette touche familiale, cette proximité qu'on a avec le public, je trouve formidable. Et c'est une carte que nous allons garder et travailler. C'est un projet ambitieux, mais sans être irréaliste, avec un partenaire ultra solide, très sérieux, qui est habitué à ce genre d'aventure. Le club aussi lui-même est très solide. C'est pour l'instant un grand club de Ligue 2 et on va essayer d'en faire un de Ligue 1.
Un propos recueilli par Victor Missistrano. Pour l'heure, le Paris FC est actuellement en tête de Ligue 2.
Foot toujours avec les matchs de qualif pour la Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud, avec l'Argentine qui a battu le Pérou 1-0, le Brésil s'est imposé, le Brésil et l'Uruguay ont fait match nul, 1-1, l'Équateur a battu la Colombie 1-0, victoire du Chili contre le Venezuela 4-2 et match nul entre la Bolivie et le Paraguay, 2-2. La Tanzanie, le Botswana et le Mozambique ont pris mardi dernier les 3 derniers billets pour compléter la liste des 24 pays qualifiés pour la CAN de 2025 au Maroc. Le reportage de Babacar Diarra pour RFI.
Un plateau dont le quart a été renouvelé. Exit 6 nations dont la Guinée et le Cap-Vert, quart de finaliste en Côte d'Ivoire. Des sélections qui font place au Botswana, qualifié une seule fois en 2012, ou à la sélection des Comores, surprenante première de sa poule. Sur la carte globale, la zone UFOA est la grande perdante avec 6 représentants ouest-africains qualifiés, soit 5 de moins que lors de la dernière édition. Les cadors comme le Sénégal ou le Nigeria sont toujours là, mais l'absence du Ghana, dernier du groupe F, fait tâche. Autre habitué, mais qualifié, la Tunisie s'apprête à enchaîner une 17e CAN de suite. Mais parmi les Nord-Africains, la meilleure impression des éliminatoires a été laissée par le Maroc, pourtant pas concerné par l'enjeu en tant qu'organisateur. Les Lions de l'Atlas sont les seuls à réaliser un carton plein avec 6 victoires dans cette phase de poule. Un bilan symbolisé par les 7 buts de Brahim Diaz, l'attaquant meilleur buteur sur l'ensemble des 12 groupes. Les Marocains feront forcément partie des favoris comme le Nigeria ou l'Égypte, qualifiés sans trembler. Quant à la Côte d'Ivoire tenante du titre, après des éliminatoires en demi-teinte, elle visera le doublé, ce qui serait une première jamais réalisée depuis le sacre de l'Égypte en 2008.
Et voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
On passe maintenant au journal de l'économie en Australie pour cette semaine.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, on retrouve Nicolas Perpich pour la rubrique de l'économie australienne de cette semaine. Bonjour à vous, Nicolas.
Oui, bonjour Jean-Noël.
Eh bien, Nicolas, il y a eu une rencontre économique assez importante pour l'Australie au G20 cette semaine, après une longue période de relations difficiles avec la Chine.
Voilà, tout à fait. Donc, le Premier ministre australien, Anthony Albanese, et le président chinois, Xi Jinping, se sont rencontrés donc au grand meeting du G20 qui s'est passé donc au Brésil, à Rio de Janeiro. Et bon, ils ont dit officiellement ce qui s'est passé. Le président Xi a parlé des relations avec l'Australie, comment avoir eu des changements, des hauts et des bas. Et Monsieur Albanese, il a dit qu'il faut prendre beaucoup de soins pour maintenir les relations. Mais aussi, on se demande, est-ce qu'ils ont parlé des droits de douaniers, les tarifs que les États-Unis, le nouveau président américain, veut imposer sur tous les pays, mais en particulier la Chine, ce qui aurait un effet énorme sur l'Australie qui a tellement besoin de l'échange libre avec la Chine. La Chine qui est la destination primaire pour tellement également des produits australiens. Bien sûr, numéro un, les produits, les ressources. Et donc, ça, on ne sait pas s'ils ont parlé de ça. Comment les deux pays pourrait gérer le nouveau président américain. Ça, on va pas le savoir. On les a vus qui ont serré la main. Monsieur Albanese a dit que le dialogue est tellement important. Ils ont fait beaucoup de progrès. Les choses ont beaucoup avancé. Parce que, bien sûr, il y avait des interdictions de la Chine sur pas mal de produits australiens, comme le vin, la viande, l'orge, les produits maritimes. Par exemple, les langoustes, mais tout ça, ça a maintenant changé. Les pénalités chinoises sur l'économie et les produits australiens se sont allégées. Donc, on espère que ça va continuer, mais c'est sûr que derrière tout ça, il y a la question de Donald Trump. Donc, on attend pour voir les résultats un peu.
Et puis, le gouvernement fédéral va introduire une nouvelle loi pour obliger les entreprises à accepter des paiements en espèces.
Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, le gouvernement fédéral va obliger les business, là, pas tous les business, mais la plupart des business, d'accepter l'espèce pour le paiement des choses comme la nourriture, l'essence et les choses qui sont vraiment essentielles. Donc, comme ça, les gens qui ne peuvent pas payer avec carte de crédit ou autre carte, par exemple, ils peuvent toujours acheter les choses qui sont les plus importantes. Et en même temps, les chèques vont être complètement interdits dans 5 ans. Donc, les chèques qui sont là depuis tellement longtemps, il n'y en aura plus dans 5 ans. Et le trésorier Jim Chalmers a dit que donc le gouvernement va commencer à consulter sur cette idée d'obliger les business d'accepter les paiements en espèces avant d'introduire ça l'année prochaine. Mais c'est sûr que ça sera après les élections, on ne sait pas quand ça sera, mais ça sera avant la fin du mois de mai, de toutes les façons, les élections fédérales. Et donc, ça ne se passera pas avant ça, de toutes les façons. Il a dit qu'on reconnaît que de plus en plus, les gens payent d'une façon numérique avec leur téléphone ou des cartes de crédit ou des échanges bancaires numériques. Mais il dit qu'il y a encore de la place dans notre société pour le liquide, l'argent en espèces, et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer sans l'argent en liquide, les espèces, et il faut que les gens comme ça puissent toujours vivre et acheter des choses comme tout le monde d'autre. Même que c'est vrai que déjà il y a à peu près la plupart des business qui acceptent l'argent en espèces et c'est une forme de paiement qui est préférée par à peu près 1,5 million d'Australiens. Donc, mais il faut savoir aussi que ça sort pas du gouvernement cette idée, mais ça sort un peu de l'idée de Bob Katter, qui est un politicien, un homme politique du Queensland, qui lui a parlé de cette question, de ce problème, quand cette année il voulait acheter quelque chose à la cafétéria au Parlement, et ils ont dit on prend pas d'argent en espèces, on prend pas de paiement en espèces. Donc lui il a dit ça va pas, c'est un exemple où ça donne tout le pouvoir à les banques et ça empêche la liberté des gens. Et donc là, voilà, le gouvernement maintenant va faire une loi pour la première fois qui oblige les gens à accepter l'argent en espèces. Donc ça sera pas tous les business, mais c'est vraiment, ça vise les gens plus âgés, par exemple, qui eux payent toujours comme ça. Mais il y aura certains business plus petits, les plus petits business, que eux, ils auront quand même l'option de ne pas accepter de l'espèce. Mais quand même, c'est quelque chose pour protéger des gens qui sont peut-être moins technologiques ou n'ont pas de paiement en espèces.
Merci Nicolas pour avoir décrypté l'actualité de l'économie australienne de cette semaine. À bientôt.
Merci Jean-Noël.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lucie Broca, qui est la Cultural Events Manager pour l'Alliance française de Melbourne. Bonjour et bienvenue, Lucie.
Bonjour Jean-Noël, merci beaucoup pour l'invitation.
Et on va parler en cette fin d'année des événements culturels qui ont lieu chez vous en ce mois de novembre et au mois de décembre. On va commencer par la soirée Beaujolais qui aura lieu le jeudi 21 novembre.
Oui, exactement. Donc on célèbre le Beaujolais nouveau et on a appelé ça Beaujolais soirée qui se déroulera le 21 novembre, donc à partir de 18h à Little Lawn Distill & Co. qui se trouve sur Madame Brussels Lane. Donc c'est un endroit qu'on a déjà utilisé pour certains de nos événements comme la raclette en juillet. Et donc, ça sera vraiment un événement pour la communauté francophone, francophile de Melbourne. C'est vraiment sympa pour discuter, converser et boire un petit peu de vin, donc de Beaujolais nouveau de M. Chapoutier qui fait cet événement avec nous. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il devrait faire beau, donc n'hésitez pas à nous rejoindre.
Et il y a encore des places, j'imagine.
Il y a quelques places qui sont disponibles, oui, disponibles sur notre site de l'Alliance française. Donc si vous êtes membre, vous avez un prix préférentiel, mais voilà. On a quelques places et on est en train de regarder le temps aujourd'hui et on dirait que ça va être la plus jolie belle soirée de l'été de Melbourne. Donc c'est sur une terrasse en extérieur, donc ça devrait être sympa.
Donc c'est afmelbourne.com.
afmelbourne.com.au, exactement.
Oui, il ne faut pas oublier.
Exactement.
Et puis on enchaîne avec le book club qui aura lieu le mercredi 27 novembre.
Oui. Alors cette fois, il sera en ligne. On a deux book clubs qui nous restent, donc un fin novembre et un le 18 décembre, si je ne me trompe pas. Donc avec la formidable Véronique qui s'occupe, Véronique Duché, qui s'occupe du book club en ligne. Et on espère l'année prochaine pouvoir accueillir de nouveau le book club en personne. Mais en tout cas, pour cette fin d'année, il en reste deux et ceux-ci sont en ligne avec Véronique.
Alors, il y a un save the date pour la fin du mois de novembre et début décembre, c'est le Christmas Market qui aura lieu au Abbotsford Convent.
Exactement, oui. Pour la première fois, on le fait à Abbotsford Convent, donc on est très, très impatients. C'est un super endroit avec des grands jardins. Et donc, oui, ça sera le 30 novembre. Et le 1er décembre, donc le 30 novembre jusqu'à de 10h à 22h. Et le 1er décembre, le dimanche, de 10h à 18h pour retourner assez tôt à la maison et commencer le lundi. Mais voilà, donc on a plus de 30 stalls. Donc
entre
exposants, stands, exactement. Ouais. Alors un petit mélange de français et anglais, désolé. Des exposants entre la nourriture, donc que ça soit la raclette, des crêpes, des chocolats et des pâtisseries. Et aussi de quoi acheter pour Noël. Donc on va avoir des accessoires, des livres, des habits, des vêtements, des peintures, etc. Donc vraiment tout pour faire plaisir pour Noël, pour la saison festive qui arrive. Et donc des tickets sont en vente. C'est la première fois que l'événement est payant cette année.
C'est à l'extérieur.
Voilà, c'est à l'extérieur. Ça va être très très sympa. Il y aura de la musique, des activités pour les enfants avec la grande récré et Décathlon qui vont nous qui sponsorise le playground, enfin l'aire de jeu pour les enfants. Et donc, c'est vraiment un beau moment à passer, un vrai marché de Noël français à Melbourne. Et les tickets sont disponibles en ligne, donc c'est $8 par personne et gratuit pour les enfants en dessous de 12 ans. Voilà.
Et j'imagine qu'il y aura aussi des groupes qui vont être sur place pour présenter de la musique.
Oui. On va essayer de faire un petit peu de musique sur place, donc tout au long de la journée. Il devrait y avoir quelques groupes qui permettront un petit peu d'ambiancer les personnes qui viennent au marché. Et puis, comme je disais, pour les enfants aussi, de quoi s'occuper tout au long de la journée. C'est vraiment un endroit où on va pouvoir passer une matinée, une après-midi et se balader également dans les jardins du couvent. Voilà.
Et peut-être d'autres informations pratiques à signaler sur Abbotsford Convent, c'est accessible au transport.
Exactement, c'est accessible en train, en bus, il y a également un parking et puis il y a toute une balade le long Marybeck qui permet d'arriver en vélo exactement ou d'arriver à pied, donc c'est assez sympa s'il fait beau, ce qu'on espère. Mais voilà, c'est assez accessible depuis le CBD et d'autres régions de Melbourne, donc on vous attend.
Il y a d'autres activités culturelles pour le mois de décembre ?
Alors, ça va être notre grand événement de ce mois de décembre, le dernier, voilà, pour clôturer l'année, puisque l'année dernière, on avait plus de 7000 personnes qui sont venues au marché. Donc, on espère en attendre pareil ou plus. On a également une loterie pour le marché de Noël, où on peut gagner des prix et soutenir l'Alliance française, puisque les fonds sont réutilisés pour notre programme culturel tout au long de l'année. Donc, voilà, pareil, toutes les informations sont disponibles sur notre site, mais ça va être notre gros événement de la fin de l'année, avec le Beaujolais cette semaine et Berthe Mouchette également, qui arrive la remise de prix la semaine prochaine de la compétition Berthe Mouchette, la compétition de poésie.
Et vous le faites toujours à St Kilda Town Hall ?
Exactement, oui. Donc cette année, il y a eu plus de 9000 participants, je crois, avec plus d'une centaine, je crois, 110, 115 écoles. Et ça sera à St Kilda Town Hall pour remettre aux lauréats leur prix la semaine prochaine. Donc je sais que mes collègues travaillent dur sur ça en ce moment. Et on est impatients aussi de célébrer avec les lauréats et mes collègues qui ont travaillé toute l'année sur la compétition.
Un petit mot peut-être aussi sur l'Alliance française French Film Festival, mm-hmm. qui va arriver rapidement au mois de mars de l'année prochaine.
Oui, alors c'est notre grande date chaque année, tous les mois de mars. Donc pour l'instant, les dates ne sont pas officielles, ne sont pas encore disponibles, mais cela devrait être le cas en décembre. Donc n'hésitez pas à avoir un coup d'œil sur nos réseaux sociaux ou sur notre site web. Donc voilà, on travaille en ce moment sur les films pour l'année prochaine et sur les événements qu'on va pouvoir proposer. Donc en mars, un petit peu de films français de retour sur Melbourne et sur toute l'Australie.
Et peut-être on va profiter de l'occasion pour parler un petit peu des cours de 2025, surtout les summer courses au mois de janvier.
Oui, alors nous ne s'arrêtons pas pendant les vacances. Donc on a différents cours, que ça soit pour les enfants, les adolescents et les adultes. Donc on va avoir deux cours pour les enfants, un qui sera à Carlton et un qui sera à Elwood. Donc ça, c'est plutôt 3 heures par jour pendant quelques jours. Il va y avoir plusieurs activités en français. C'est pour, ça s'appelle Around Francophone World, donc vraiment quelque chose de vraiment d'activité pour que les enfants puissent s'amuser et apprendre un peu le français autour de jeux, de chansons. Et puis pour les adolescents, donc de l'année 7 à 12, on a aussi des summer courses, pareil, 3 heures par jour avec 1h30 de révision et 1h30 d'activité. Et enfin pour les adultes, on en a différents, donc que ça soit que vous en... Si vous voulez vous entraîner sur votre grammaire, votre prononciation ou quelque chose de plus débutant, voilà, ça va être entre un jour à une semaine, dépendant des cours proposés intensifs. Et donc, pareil, tout au long donc du mois de janvier, enfin du 20 au 24 janvier pour certains, mais cette période juste avant le début de la Session 1 en février, voilà, de retour.
Et on va garder la surprise pour dévoiler les cours de 2025 pour une prochaine occasion.
Exactement, oui, on aura plus d'informations en début d'année, avec des nouveautés, etc. Donc c'est vrai que voilà, pour l'instant, on se concentre sur les vacances, les cours pendant les vacances. Exactement, les summer courses. Et puis ensuite, le début de la première session qui sera en février avec des nouveautés sur lesquelles notre équipe éducative travaille en ce moment.
Un petit mot sur les cours que vous offrez à la communauté francophone.
Oui, alors tout au long de l'année, on a des cours pour adolescents et enfants francophones. Donc voilà, les prochaines sessions seront disponibles sur notre site web. Mais c'est vrai qu'il y a des cours qui sont disponibles tout au long de l'année pour cette cohorte spécifique. Voilà.
Merci Lucie d'être venue nous voir.
Eh bien merci beaucoup, merci pour l'invitation.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, on a le plaisir d'avoir Nabila Aliane, qui est la directrice de l'Alliance française de Canberra. Bonjour et bienvenue sur les ondes de SBS en français.
Et bonjour Jean, comment allez-vous?
Ça va à Melbourne. Et vous à Canberra, j'imagine que c'est le printemps qui prend fin.
Effectivement, on a de très beaux jours.
Vous allez enchaîner le vendredi 22 novembre avec le Beaujolais Wine Tasting Party.
Effectivement. Et là, c'est pour célébrer la tradition française du Beaujolais nouveau. Nous aurons, donc c'est vraiment le 22 novembre, effectivement, de 18h30 à 21h. Donc là, nous aurons une dégustation de 5 vins de notre partenaire chapoutier, accompagné de fromage et d'affinois. Et bien sûr, nous allons apprécier la musique, le jazz live, oui, avec un duo, bien sûr local, The Odd Couple. Donc vraiment, c'est une soirée très, très agréable pour toutes les personnes qui veulent goûter au vin français, un peu de fromage, une soirée très, très française.
J'imagine que les rendez-vous réguliers se poursuivent, comme les conversations autour d'un café, les film nights.
Effectivement, oui. Mais aussi, au mois de novembre, il y a la célébration du professeur de français. C'est la journée internationale du professeur de français le 21 novembre. Oui. Mais comme nous avons la soirée Beaujolais le 22, on a préféré organiser une soirée spéciale prof de français à Canberra. Ouais. Ce sera le 29 novembre, vendredi. Et là aussi, nous avons envoyé des invitations aux professeurs de l'ICT pour qu'ils puissent participer. Nous aurons des canapés, des boissons pour célébrer ce jour-là. Nous aurons aussi des intervenants qui vont parler de leurs expériences en tant que prof de français en Australie et peut-être aux défis auxquels ils font face et avoir une discussion avec tous les participants.
Est-ce que vous avez le sentiment vous-même que l'enseignement du français se porte bien à Canberra?
Eh bien, sincèrement, il y a une réduction des cours de français dans les écoles, malheureusement. Et c'est ce que nous faisons, c'est notre objectif, l'Alliance française, c'est de promouvoir la langue française dans les écoles australiennes ou à Canberra. Et nous essayons de créer ces partenariats avec les profs, nos professeurs de français, qui sont nos ambassadeurs en réalité dans ces écoles et qui vont nous aider à mettre en place des cours de français et que les élèves puissent parler en français à long terme et non pas une année ou deux ans. Je crois que la langue française, pas seulement la langue française, mais toutes les langues sont un peu menacées en Australie. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille dessus, qu'on essaye d'avoir plus de visibilité dans les écoles et plus d'opportunités de fournir des cours. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire de toute façon. Et avec cette soirée de la Journée internationale du prof de français, nous essayons justement de renforcer nos liens avec les écoles et avec les profs, bien sûr.
Quel bilan faites-vous pour les cours de 2024 chez vous au sein de l'Alliance française de Canberra? Est-ce que ça a été un bon cru?
Eh bien, je vais vous dire sincèrement, oui, ça a bien marché. La différence, je ne dis assez bien marché, mais la différence, c'est que ce qu'il y a de plus ici, c'est qu'au mid-term, nous proposons des cours donc, ou des ateliers, beaucoup plus. Donc, ce qu'on a compris, c'est que l'apprenant australien essaye d'apprendre la langue française, mais aussi il s'intéresse à la cuisine, par exemple à la pétanque, à des ateliers très simples où ils peuvent pratiquer le français hors du cadre scolaire ou des classes. C'est ça l'idée. Donc un assez bon trimestre, je suis vraiment très très heureuse et ça nous donne aussi une idée pour l'année prochaine. Et le fait de varier, comme vous l'avez cité tout à l'heure, la pétanque, le fait de varier nos ateliers, les activités en français et sortir du cadre de la classe serait une excellente opportunité d'attirer plus d'apprenants à l'Alliance française de Canberra.
Je reviens sur les cours de 2025 que vous aviez mentionné au début. J'imagine que la rentrée, c'est au mois de janvier, il y aura des cours d'été et peut-être aussi également des nouveautés pour 2025?
Effectivement, donc c'est absolument ça la nouveauté. Donc on a des cours qu'on appelle Summer Intensive au mois d'été, à partir du mois de janvier. Et donc là, c'est à partir de janvier, nous aurons des cours de conversation, des cours traditionnels de groupe avec un manuel. Mais aussi, on va proposer des ateliers de cuisine. Ce qui marche aussi, c'est les ateliers, c'est des jeux où on apprend le français. Nous allons aussi essayer de créer des jeux de société, mais en français. Donc les gens se rencontrent autour d'une table pour jouer à un jeu, mais en français, le vocabulaire serait fourni en français. Donc c'est ça la nouveauté, c'est de fournir des activités, des ateliers assez différents des ateliers ou des cours traditionnels.
Et je vois aussi sur le site de l'Alliance française de Canberra qu'il y a du théâtre de la rue en ce moment, Waiting for Godot, en attendant Godot de Samuel Beckett. Est-ce que l'Alliance est impliquée?
Non, nous faisons la publicité, mais nous ne sommes pas impliqués. Non, absolument pas. Mais là, nous faisons la promotion de ces activités sur nos sites.
Une représentation en anglais, j'imagine?
Oui, bien sûr, voilà, c'est absolument ça, oui.
Oui, absolument.
Mais il y aura pas mal d'activités ou d'activités culturelles, d'événements culturels en 2025.
Ouais.
Nous sommes en train de tout finaliser et nous en parlerons au mois de janvier.
Absolument, et je suis sûr que vous êtes aussi en pleine préparation pour l'Alliance française French Film Festival de mars prochain.
Effectivement. Ah oui, c'est un grand sujet, c'est énorme, c'est très important pour toutes les alliances, le French Film Festival.
Ouais.
Et là, on est en train de finaliser tous les détails, et voilà, ce serait vraiment une excellente opportunité aussi de promouvoir la culture française.
Nabila Aliane, merci d'être intervenue sur les ondes de Radio SBS et à très bientôt.
Merci à vous et bonne journée. Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce 21 novembre. L'Ukraine a tiré une série de missiles de croisière britanniques Storm Shadow sur la Russie, un jour seulement après avoir tiré des missiles de fabrication américaine. Une nouvelle législation sera introduite cette semaine au Parlement, obligeant les employeurs à fixer des objectifs de parité pour les conseils d'administration, à réduire les écarts de rémunération et à proposer des horaires de travail flexibles. Les jeunes demandent au gouvernement de baisser l'âge de pouvoir voter à l'âge de 16 ans. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous le week-end prochain, samedi et dimanche, pour le best de nos podcasts. Et quant à nous, on se retrouve en live le mardi prochain, à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.